Bonjour à tous, voici le podcast numéro 5 de Rendez-vous Création. Aujourd'hui, un entretien avec Gérard Klesch, qui est le fondateur et rédacteur en chef de lavienumérique.com. La Vie Numérique, c'est un site qui traite de l'actualité du numérique pour le grand public. Nous avons parlé de son parcours, de la création de La Vie Numérique, de sa démarche de publication et de son environnement technique. En attendant le podcast numéro 8 de Rendez-vous Création avec DJ Zebra, nous allons découvrir en fond sonore quelques-uns de ses mélanges musicaux que l'on appelle bootleg, aujourd'hui Machista Dance. Bonjour Gérard Klesch, peux-tu nous dire quelques mots sur le chemin qui t'a amené à la création de La Vie Numérique ?
J'ai un parcours relativement atypique et en tout cas à géométrie variable, puisque j'ai commencé par faire des études de gestion, tout ce qui est le plus traditionnel, des études de gestion et de marketing. Et puis très vite, j'ai compris que c'était pas ma tasse de thé. Et donc, tout de suite après l'armée, parce qu'à l'époque il y avait encore une armée, je suis entré dans une boîte informatique, ce qui était naturel puisque en fait j'utilisais les ordinateurs déjà chez moi depuis la fin des années 70. Voilà, et puis je m'étais essayé déjà quelques fois à travailler ici et là pour des magazines, mais vraiment très ponctuellement. Et en rentrant donc dans l'informatique, j'ai fait une dizaine d'années en tant que consultant sur des sujets très sérieux d'informatique d'entreprise. Et au bout d'un moment, le démon de l'informatique et du numérique au sens large, mais vu d'un côté grand public, m'a repris. Et donc je suis devenu un peu sur le tard, il y a une dizaine d'années aussi, journaliste. D'abord travaillant ponctuellement pour Canal+, sur une émission qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Cyberflash. Ensuite, en tant que rédacteur sur Science et Vie Micro, qui était à l'époque et qui est toujours, je crois, le leader des mensuels parlant d'informatique et de nouvelles technologies. Après, l'étape suivante, ça a été pendant 4 ans, j'ai été chef de rubrique au groupe Test, à Micro Hebdo, qui est le plus lu des magazines informatiques, qui pour le coup est un hebdomadaire, comme son nom l'indique. Et pour finir, pendant un an et demi, deux ans, j'ai été pigiste, ce qu'on appelle pigiste, c'est-à-dire j'ai travaillé pour différents magazines, tous encore liés de près ou de loin aux nouvelles technologies et à l'informatique, avant de créer donc lavienumérique.com, qui a un peu plus de deux ans aujourd'hui.
Silencieux, soulagé de pouvoir se plaire un petit peu.
Comment est venue l'idée ?
Comment est venue l'idée ? L'idée est venue qu'à l'époque, sur Internet, il y avait déjà des excellents magazines, mais qui avaient deux défauts à mon goût. C'était soit d'être trop pratique, c'est-à-dire de tout tourner vers le côté pratique des choses, qui est intéressant en soi, mais qui n'était pas forcément ma façon de penser, soit qui était trop orienté produit, c'est-à-dire c'était des sites qui testaient à longueur de journée des écrans, des lecteurs DVD, des ordinateurs, etc. Je pensais qu'il y avait une place, et je pense toujours qu'il y a une place pour un type de support sur Internet qui soit très différent de la presse magazine papier, où ce qui est important, c'est pas seulement l'info en soi, c'est aussi le commentaire qu'on apporte à l'info, éventuellement même le parti pris qu'on prend par rapport à l'info, et puis l'analyse de l'info. L'info brute n'apporte pas grand-chose si on n'y met pas autour soit un aspect explicatif ou pédagogique, soit un aspect, osons le mot, polémique. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec La Vie Numérique.
Quel type de structure a été créée pour l'occasion ?
Au départ, on a créé, après plusieurs semaines de réflexion et de mise en chantier du projet avec deux associés, on a créé une petite SARL avec un capital très limité. En fait, le site n'avait pas vocation à être commercial, il n'a toujours pas vocation à être commercial, mais encore moins à l'époque, c'est-à-dire que même à la limite, on ne voulait pas de pub, etc. L'idée était qu'en fait, La Vie Numérique pouvait nous servir de tremplin pour pouvoir communiquer et avoir une action de consulting vis-à-vis d'entreprises qui avaient besoin un petit peu de sentir le vent du numérique, sentir un petit peu les tendances du moment, etc.
Comment s'est passée la première phase ?
Eh ben, ça s'est passé bien, parce qu'on a trouvé quand même rapidement un public assez fidèle. On a très vite franchi la première barrière, qui était celle des 15 000 visiteurs uniques mois. Et puis après, on n'a jamais cessé d'augmenter en termes de fréquentation. Du point de vue de nos ambitions par ailleurs, parce qu'il fallait bien une subsistance pour les trois journalistes que nous étions qui lancions ce projet, ça s'est moins bien passé dans la mesure où on passait énormément de temps à améliorer le concept de la vie numérique et pas beaucoup de temps à essayer de, entre guillemets, draguer les sociétés qui auraient pu nous faire travailler sur telle ou telle mission. Freedom to you has always been whoever landed on your dick.
Seen it in you one too many times. Dans quelles circonstances est intervenue la reprise par le groupe ITR News ?
Bon, déjà, les deux associés étaient partis sous d'autres horizons. Donc, je ne pouvais pas continuer tout seul. Et y avait un partenaire avec qui j'avais eu l'occasion de travailler en tant que pigiste, qui était ITR News, qui m'a proposé de reprendre la vie numérique, sachant qu'il voulait se développer sur la partie grand public.
Tu as sûrement fait des concessions, non ?
Il y a forcément des concessions, puisque en s'intégrant dans un groupe qui a par ailleurs d'autres supports, ces supports sont ITR News, ITR Manager, ITR Mobile, etc. Des choses qu'il fallait revoir, ne serait-ce que mon emploi du temps, parce que tout en étant resté rédacteur en chef de la vie numérique, je travaille sur les autres supports du groupe ITR News. Pour tes yeux.
Toujours plus en fer. Quelle est la démarche qui fait qu'un article va être publié sur la vie numérique ?
Alors déjà, il y a au moins deux manières de retrouver un sujet sur la vie numérique. Soit c'est effectivement ça part d'une idée de moi ou d'une idée de l'équipe, puisqu'on est une équipe sur ITR News. Et là, effectivement, on va chercher un certain nombre de documentations, on va aller appeler des acteurs liés à la question qu'on aborde, etc. Et puis il y a le traitement, je dirais, un peu plus systématique et un peu plus journalistique de base, qui consiste à aller dans les conférences de presse, recevoir des dossiers de presse, recevoir des communiqués de presse, aller éventuellement, très ponctuellement, parce qu'on n'a pas le loisir d'y aller très souvent, mais sur des voyages de presse qui nous ouvrent un peu des perspectives.
Comment le choix d'un système de contenu s'est-il fait ?
Au départ, quand on a lancé la vie numérique, on n'avait pas d'a priori. On a essayé d'analyser toutes les solutions qui existaient sur le marché. À l'époque, il n'y avait pas les dizaines de solutions de blog qui peuvent exister aujourd'hui. Il y avait la possibilité de créer nous-mêmes nos pages avec un éditeur HTML, mais franchement, c'était pas satisfaisant en termes de productivité. Et puis, il y avait le début de ce qu'on appelle les CMS, c'est-à-dire les gestionnaires de contenu. Et parmi ceux-là, il y en a un qui a été fait par une petite start-up corse, très dynamique, qui s'appelle Webzine Maker. Et quand on a vu leur outil, on est un peu tombé amoureux de leur outil, même si à l'époque il était bien plus perfectible qu'aujourd'hui. Et cet outil nous a vraiment permis de démarrer très vite et d'intégrer très vite du contenu. C'est un outil complet, vraiment, pour faire un magazine en ligne. Comme son nom l'indique, Webzine, c'est un magazine sur le web. C'est un outil qui nous a permis très vite de mettre en ligne lavienumérique.com. Cela dit, aujourd'hui, on se pose des questions pour analyser si on ne devrait pas normaliser tous nos contenus, puisque les autres supports du groupe ITR News ne sont pas conçus sur Webzine Maker, mais sur une plateforme propriétaire. Donc, il y a une vraie réflexion qui est menée en ce moment, et je n'ai pas encore la décision finale, et bon, la réflexion est encore ouverte.
Donc, tu conseilles Webzine Maker ?
Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, parce que ça coûte quelques euros par mois, voire gratuitement, parce qu'il y a une version gratuite, qui a une vraie idée de magazine en ligne et qui a besoin d'un outil complet qui lui permette à la fois d'intégrer ses images, de faire des liens dans tous les sens, de faire des fils RSS, de faire même du podcast, de faire euh, plein de choses, de faire des albums photos, de faire du téléchargement vidéo, etc. Webzine Maker est probablement la meilleure solution aujourd'hui sur le marché français.
Précieux quand il faut s'y faire, silencieux, soulagé de pouvoir se plaire un petit peu. Amoureux si c'était hier, moi je veux souligner tout et son contraire pour tes yeux. Astucieux, toujours plus en faire, être mieux.